L'entrevue.
L'entrevue ? L'entrevue ? L'entre quoi ?
L'entrevue. L'émission d'actualité locale sur Radio La.
3, 2, 1, 0.
Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute de Radio La, web radio de proximité au pays de Dieulfi-Bourdeau. Les entrevues hebdomadaires vous accueillent toujours en direct chaque mardi à 9h30 sur les ondes numériques et en podcast sur radiola.media et sur l'appli Radiola, bien sûr, juste après notre direct. On en profite pour faire ce matin un chaleureux salut et adresser un grand merci à Marin, la voix du mardi matin, et lui souhaiter une très belle route pour la suite de ses aventures de vie. On garde toujours ici à cœur de vous présenter et de détailler avec vous, chers auditeurs et chères auditrices, les initiatives les plus excitantes de notre beau territoire où, il faut le dire, il fait bon vivre. Le bien vivre ensemble, c'est une question importante, ici et ailleurs, question locale donc, sociale mais aussi politique, à laquelle fait écho un événement devenu incontournable au pays de Dieulfi-Bourdeau. C'est « Les murs ne servent à rien », 9e édition qui arrive à grands pas les 19, 20 et 21 septembre prochains. 3 jours de films, de radio, de photographies et de textes pour penser les migrations à Dieulfi. Événement que nous recommandons évidemment ardemment et dont nous diffusons régulièrement les échanges passionnants sur le flux de la radio. Chloé Peterman est avec moi ce matin. Salut Chloé.
Bonjour.
Tu es fondatrice et programmatrice de l'événement. Tu es également directrice de l'association Passerelle.
Tout à fait.
Ça va, ça pour le CV, c'est bon ?
C'est nickel.
Alors Chloé, c'est la 9e édition des murs ne servent à rien. Ériger des murs physiques, mais aussi entre les peuples, entre les gens, soi-disant pour se protéger. C'est une pratique avérée, hein, devenue courante oui. Partout dans le monde. Toi qui évolues, nous le savons, dans le milieu militant de l'accueil et accompagne régulièrement des personnes en exil, est-ce que tu peux nous dire, en quelques mots, ce qui n'est pas facile, ce qui a changé lorsqu'on parle de migration, lorsqu'on parle d'exil, en une petite dizaine d'années, depuis et finalement l'édition 1 des Murs ne servent à rien, de ton point de vue, hein ?
Oh là là, de mon point de vue. De mon point de vue, ce qui se passe, c'est que ce festival, enfin, ces 10 années qui viennent de se passer, elles ont été un peu les années de création de l'association. Et donc aussi les années où on a créé 1000 liens, justement. Plutôt que monter des murs, on a créé des liens avec plein de personnes qui sont investies dans l'accueil, dans des associations d'accueil, mais aussi, et ça c'est par l'intermédiaire entre autres du festival, mais aussi avec nos liens avec Mimesis, avec le milieu de la recherche sur les questions migratoires. Et donc du coup, ce que je vois sur ces 10 ans, c'est combien on s'est informé sur ces questions-là. Et je pense quand même qu'on est monté en compétence et qu'on a amené de la subtilité, de la nuance, mais aussi des chiffres, des contenus sérieux, et ça nous construit. Après, si on regarde d'un point de vue plus politique l'évolution des choses, ben c'est assez difficile à regarder, c'est assez dur, affligeant et triste. Mais c'est ce qui nous pousse aussi à poursuivre ce qu'on fait et à justement amener une information calme, sourcée sur ces questions-là.
Alors, penser les migrations, c'est une activité qui se joue plutôt en dehors du champ des décisions politiques actuellement. En quoi ces rencontres, ces échanges, ces débats, ça nourrit la vie publique ?
Eh bien justement, oui, il y avait je crois que c'est dans The Conversation qu'ils ont fait un papier sur le fait que les politiques ne lisent pas les études des chercheurs sur les questions migratoires. Donc voilà, nous on essaye en tout cas de les faire remonter. En fait, le politique, lui, il a une réponse, déjà il a une réponse dans l'immédiateté, et ça c'est exactement ce que nous on essaye de ne pas faire. On essaye de montrer des contenus qui parlent et qui observent des situations au très long cours, au long cours et au très long cours. Là, on a un bon exemple avec l'expo de photos d'Olivier Jobard. Donc, sortir de ce « il se passe quelque chose, on donne une réponse immédiate » qui n'est en général pas très adaptée. Se décoller des peurs, des angoisses, des clichés, voire même, puisque c'est quand même une réalité, des propos racistes, clairement xénophobes.
On va en parler de se décoller des clichés avec la première lecture d'ouverture des murs de cette année dans un instant. Mais avant ça, tu ouvres chaque édition, toi, avec un discours personnel. Je crois que tu ne l'as pas encore rédigé. Mais est-ce que tu sais déjà comment tu comptes présenter cette nouvelle édition ? En gros, quelle couleur tu lui as souhaité un peu cette année et quelles sont les particularités que tu vas annoncer ?
Alors, ce discours, oui, il est l'introduction du festival et il lui donne sa couleur politique, hein, pour moi. Il est un document qui est sur mon ordi un peu toute l'année, où il y a écrit « intro mur, prochain mur » et où je stocke un peu des choses qui me marquent, qui m'attristent, qui m'enthousiasment pendant l'année sur les questions migratoires. Je me fais des petites notes comme ça au fur et à mesure. Et puis, en général, une semaine environ avant le festival, donc là, il faut vraiment que je m'y mette, je m'y attaque. C'est toujours un peu complexe de résumer. C'est quand même une idée de faire un petit peu panorama sur l'année qui vient de se passer et d'en conclure des choses. De toute façon, la conclusion, elle est souvent la même, c'est-à-dire on poursuit, même si les choses sont difficiles, il faut continuer à lutter, d'autant plus que les droits des personnes exilées, d'un point de vue mondial, mais aussi européen, sont quand même largement toujours bafoués. Donc oui, il y a toujours du taf.
Un beau programme pour une ouverture. Alors justement, j'aurai le plaisir d'ouvrir avec toi en duo les rencontres, le vendredi 19 septembre à 20h, à la Halle de Diolfi, on le précise, avec une lecture de l'ouvrage de Sophie Gigot, qui nous invite à réfléchir, à penser, à banaliser en fait l'altérité afin de réduire les distances. Qu'est-ce qui t'a touché dans cette pensée philosophique ?
Oui, c'est ça. Sophie Gigot, elle est philosophe, donc elle porte ce regard particulier sur la question migratoire.
On sort du champ de la recherche.
On sort du champ de la sociologie, de l'anthropologie, etc. Elle est philosophe. Elle a un regard qui est très qui part de quelque chose de très sensible. Le texte s'ouvre sur la sorte de paysage que créent les
scarifications.
Les blessures d'un homme qui a été battu à cette frontière, puisqu'on parle d'un point de frontière assez précis, hein, c'est le fleuve Evros, donc qui sépare la Turquie et la Grèce. Et c'est un texte qui est quand même très érudit et en même temps, je trouve, accessible. En plus, j'ai été charmée par l'édition, hein, puisque c'est un très beau livre.
Avec des photos.
C'est un éditeur qui fait toujours ce travail de croiser un texte venu des sciences humaines et sociales avec un travail photo. Donc, c'est quand même assez particulier. Le livre est très beau et il sera en vente à la librairie du festival. Et je trouvais que c'est aussi le croisement avec le film qui suit, puisque le film qui suit parle de la Grèce. Et donc, je trouvais intéressant de les faire se croiser. Puis, il y a une langue qui est vraiment belle dans ce bouquin « Penser avec la frontière ». Déjà, le titre « Penser avec la frontière », je trouve qu'il est fort.
Penser avec le film qui suit, film documentaire Maria 6 de Jennifer Malman, un film allemand qui raconte l'histoire de 6 réfugiés qui sont condamnés lors d'un procès douteux. C'est bien ça, hein ?
Ouais, tout à fait. Maria 6, ça raconte, en français, ils l'ont pas traduit en français, mais c'est les 6 de Moria. Ce sont 6 jeunes qui ont été condamnés suite à l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos, qui ont fait des années de prison. Bref, voilà, le film raconte un peu toute cette aventure terrible pour eux, judiciaire, mais dans quelque chose de très intime, puisque la réalisatrice crée une relation épistolaire avec Hassan, qui est un de ces jeunes Afghans qui est enfermé. Il lui écrit depuis sa cellule, ils ont des échanges épistolaires. Le film se construit autour de ça, tout en suivant parallèlement la construction et l'ouverture du nouveau camp de Moria qui, soi-disant, alliera fermeté et humanité. On aime bien nous vendre ce concept. Et où on se rend compte que ce camp, c'est un immense camp prison, comme sont beaucoup des nouveaux camps dans lesquels sont placées les personnes, je le rappelle, dont certaines sont encore en demande d'asile.
Alors ça, c'est pour la soirée d'ouverture, donc vendredi 19 septembre à 20h. On passe à samedi, si tu veux bien. Deux journalistes et photojournalistes de l'AFP seront là durant toutes les rencontres, je crois. Amaury Auchard et Michel Catani pour deux enquêtes témoignages à la frontière mexicaine et l'autre en Afrique de l'Ouest. Est-ce que tu peux nous parler de ces enquêtes et de quelle façon allons-nous les découvrir ?
Alors, Amaury et Michele, ils ont travaillé ensemble sur une grande enquête dont le départ était effectivement les pays d'Afrique de l'Ouest, dont beaucoup de personnes exilées partent pour la direction les Canaries, mais direction aussi parfois les États-Unis. Donc des gens qui vont traverser la planète en prenant aussi des vols. C'est une migration qui est au beaucoup plus long cours et qui aussi représente énormément d'argent. Et dans le cadre de cette enquête, ils se sont retrouvés dans une ville qui s'appelle Tapachula. L'enquête générale, globale, elle a été commandée par ID News, qui est un média suisse. Ils ont fait... je crois 8 papiers, c'est vraiment un travail au très long cours, 8 papiers pour ID News que je recommande, qui sont géniaux. Mais dans le cadre de cette enquête-là, ils se sont retrouvés à Tapachula, cette ville qui est au Chiapas, région du Mexique, frontalière du Nicaragua, direction le mur des États-Unis. Et dans cette ville, ils ont vécu un truc, ils ont trouvé en fait une situation tellement extraordinaire qu'ils se sont dit non mais là, il faut qu'on trouve un média qui nous permet de faire une enquête spécialement sur cette ville. Ils l'ont trouvé, c'est Les Jours. Excellent journal aussi, qui permet des papiers...
Suisse également.
Français, je crois, mais qui permet vraiment des papiers au très long cours. Il y avait une magnifique série sur la question migratoire au Sénégal aussi, dans ce média-là. Et du coup, il y a 3 papiers autour de cette ville Tapachula. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Tapachula, c'est une ville où la moitié des nationalités du monde sont représentées par les personnes migrantes.
Environ 80-90 nationalités.
C'est hallucinant, tous les gens qui se retrouvent dans cet endroit. Après, il ne faut pas en avoir une vision fantasmée, c'est un peu l'horreur. Il y a les cartels là au milieu, c'est extrêmement compliqué politiquement. Les gangs, en fait, se sont mis, entre guillemets, à vendre aussi les personnes exilées, ou en tout cas les passages, au même titre que les armes ou la drogue. Donc tout ça est imbriqué dans une situation qui est très complexe. Mais Amaury et Michele, ils ont rencontré dans cette ville plein de personnes qui sont là, celles qui sont là depuis hyper longtemps, parce qu'elles n'arrivent pas à continuer, celles qui viennent d'arriver. Et il y a toute cette histoire des marches qu'organisent ces personnes, puisqu'en fait, ces gens s'organisent sous forme de grandes... C'est pas des manifs, mais c'est des grandes filets comme ça de personnes qui partent en groupe depuis Tapachula. Mais je vous dis pas la suite parce que vous le saurez dans la belle lecture qu'on a construite, qui du coup sera une lecture projection. On lit des extraits de ces papiers et parallèlement seront projetées les photos de Michele Catani, qui effectivement est photographe pour l'agence France Presse, qui a passé... Ça, ce sont deux personnes vraiment qui ont passé énormément de temps sur le continent africain, qui le connaissent vraiment bien. Et ces photos seront projetées, les photos particulièrement sur Tapachula, mais vous pourrez aussi voir les photos concernant l'ensemble des papiers pour ID News, donc cette route depuis l'Afrique de l'Ouest, par le prisme des réseaux sociaux, dans l'exposition qui sera au Lavoir. Et Michele et Amaury seront là pendant tout le week-end, donc vous pourrez les rencontrer.
Ils seront là pendant tout le week-end, donc en dehors de ce moment de lecture et de ce moment de rencontre et d'échange, de conversation avec eux, il sera possible d'échanger avec eux.
Carrément.
Je pensais à cette notion de témoignage journalistique, médiatique. Je sais que tu y tiens beaucoup et tu parles de papiers, d'articles que certainement tu partages aussi avec l'association. En quoi ça nous permet ce type de témoignage précis, ces enquêtes au cours, de rendre des réalités qui nous sont si étrangères plus palpables? Parce que Tapachula, il faut se l'imaginer.
Carrément. Et c'est vrai que cette année, il y a un focus. Cette année, dans les murs, plutôt qu'un focus sur la recherche, c'est vrai qu'il y a un focus sur le journalisme. Aussi parce que je suis toujours un petit peu agacée quand on me dit de toute façon, les gens ont de la haine contre les personnes migrantes. Mais ça, c'est à cause des médias. Oui, enfin, c'est à cause de certains médias. Plein de médias font un travail absolument magnifique sur la question migratoire, justement pour essayer de ramener une identité, une personnalité, une humanité aux personnes exilées, en parlant de personnes et non de groupes, et non de masses qui nous envahissent. Et c'est le cas de ce genre de papier. C'est clair que... Mais moi, pourquoi j'ai voulu programmer ces papiers sur Tapachula? Parce que j'ai complètement découvert. Hein. Enfin, moi, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Enfin, ça a été une découverte pour moi, et du coup, j'ai envie de la partager. Et aussi parce que Michele et Amaury, ils ont vraiment... j'aime aussi la langue d'Amaury dans ses articles. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose de très sensible, de très enjoué. Et justement, dans l'intro là, de ce papier sur Tapachula, cette place dont il nous parle, où il y a quelqu'un qui joue du marimba, où il y a des jeunes qui dansent, on s'y sent, quoi, on s'y voit. Et c'est important de passer par ce prisme de la sensibilité. C'est aussi ce qu'on essaye de faire sur l'ensemble du festival. C'est à la fois des contenus qui sont sérieux, mais qui sont sensibles. Et je pense que c'est exactement comme pour les peurs par rapport aux personnes exilées. Les personnes qui ont peur des personnes migrantes, qui ont peur d'être envahies, à partir du moment où ils rencontrent une de ces personnes, souvent ça change ça change leur regard. Bon, bah voilà, nous, on parie sur ça, en fait, sur cette forme d'humanité.
Et également sur le narratif.
Ouais, en fait. Tout à fait. Mmh. Oui, oui, de ce que ça. De... Oui, oui, l'histoire qu'on nous raconte. Et d'ailleurs, les papiers pour Heidi, c'est à chaque fois, chaque article correspond plus ou moins à un personnage. Et ça amène de la complexité. C'est une conversation, je pense, qui va être intéressante, la conversation qu'on va avoir avec Amaury, parce qu'ils ont observé toutes ces personnes qui partent par le prisme des réseaux sociaux. Ça veut dire en quoi TikTok, Facebook, Instagram, tout ça joue aussi sur le fantasme ou sur le rêve de l'Europe, et comment ça sert aussi de construction narrative au personnel même. Il y a tout un papier sur un jeune homme sénégalais qui a réussi à migrer aux Canaries. Il était pêcheur au Sénégal, il a réussi à migrer aux Canaries et il a créé une chaîne où il raconte sa vie aux Canaries, qui en fait... Il n'en montre qu'une partie, il ne montre que le côté
bien
positif,
sûr, comme,
il ne montre
comme sur
pas
tous les réseaux.
Voilà, il ne montre pas le fait qu'en fait, il a un boulot dur dans le bâtiment aux Canaries, qu'il est sans papier pour l'instant, qu'il a pas pu être régularisé,
sans papier, pardon. Je le dis pour les auditeurs.
Oui, voilà, on n'aurait pas le glossaire. et du coup c'est aussi une dame par exemple qui est passeuse et qui est sur son canapé à vendre des passages par l'intermédiaire d'Instagram. Ben voilà, peut-être ça peut surprendre une certaine partie du public des miens ne servent à rien, mais en fait, c'est aussi ça.
Bien sûr.
C'est essayer de comprendre un peu tous ces enjeux, en parler et amener cette info.
Et les enjeux médiatiques, en effet. Et d'ailleurs, à ce propos, je fais un mea culpa tout de suite. Le Soir est un journal belge. J'avais switché dans ma tête. Je suis désolée.
Les jours, c'était.
Ah, c'est les jours, pas le Soir.
C'est pas le Soir, non. Les jours, je crois que c'est français, mais à vérifier.
Bon, allez, double mea culpa. Et si vous avez la curiosité
chevillée
au corps, vous pourrez aller voir les papiers d'Amaury Auchard et Michel Catani en ligne, bien sûr, puisque je pense que c'est en partie à disposition. On va sauter à la suite, si tu en es d'accord, samedi après-midi, un film d'animation, Le Parfum d'Irak, de Ferhat Alani et Léonard Cohen sera proposé. Est-ce que c'est la première fois un film d'animation? Je me suis posé la question. Long métrage d'animation. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu ce qui se passe dans ce film?
On a passé l'année dernière Interdit aux chiens et aux Italiens, mais c'était dans la programmation enfant. Magnifique film d'animation, un peu à modeler. Là, on est Le Parfum d'Irak, en fait, de Ferhat Alani. C'est l'adaptation de son livre, Je me souviens, de Fallujah. Magnifique roman autobiographique que je recommande à fond. Et l'adaptation par les dessins de Léonard Cohen, elle est juste folle graphiquement. C'est un film qui est très très beau. Et c'est là, on est au-delà de la migration, c'est vraiment qu'est-ce que c'est être un enfant avec une double culture, quoi. Puisque Ferhat Alani raconte sa propre histoire, ses parents qui sont irakiens, qui ont quitté l'Irak il y a bien longtemps. Après, ça enchaîne avec toutes les différentes guerres. Enfin, voilà, c'est un pays qui est tellement complexe, mais vu depuis son personnage d'enfant à lui. Et non, c'est savoureux et c'est assez grand public.
Malgré tout, dans les films d'animation, même à destination des adultes, ce sont souvent les enfants qui sont des personnages principaux.
C'est vrai.
C'est un peu étonnant.
Ouais,
et tu penses que le dessin, toi, c'est un vecteur encore plus puissant, cette abstraction, un peu.
En tout cas, moi, j'ai clairement, en le mettant à la programmation, je me suis dit, ben là, on peut toucher un public qui, a priori, ne vient pas au mur, quoi.
D'accord.
C'est sûr. Ça ouvre quand même sur autre chose. Même les ados, je pense vraiment que ça peut. C'est vraiment un film qui peut les accrocher. Les musiques sont hyper chouettes. La bande originale est vachement bien. Enfin, voilà. Donc, venez.
Venez. Deux documentaires radiophoniques seront proposés au programme et diffusés, alors toujours à la Halle. D'abord, Dernier Recours, réalisé par Noé Pignette, qui sera présent au festival. Ce sera diffusé le samedi 20 septembre à 17h30. Et c'est particulier, c'est une série en 3 épisodes. Un épisode sera diffusé.
Les trois. On est fous, on a décidé de mettre les trois.
Très bien.
Donc ça fait 50 minutes d'écoute radio.
Ah bah parfait. C'est un micro caché dans un carton qui permet d'entrer là où on ne va jamais, en catimini, dans un centre de rétention administrative. Un CRA, comme vous en entendez trop souvent parler. Et puis deuxième documentaire radiophonique, on va en écouter un extrait ensemble si tu es d'accord. Puis
c'est le
dimanche 22 septembre, sera le documentaire Comme une guerre qui n'en finissait jamais, de Raphaël Bottiveau, qui raconte les vies des personnes migrantes piémontaises au XXe siècle. Donc, on s'écarte un peu de notre ère. Donc, nous allons écouter un extrait maintenant. Mais est-ce que tu peux nous dire, avant cette écoute, pourquoi tu as choisi de proposer ce documentaire plus, plus historique, hein, en quelque sorte.
Oui, plus historique, parce que je trouve toujours intéressant de remettre notamment la frontière italienne dans une perspective historique, puisque c'est la frontière la plus proche de nous, et que, eh bien oui, à une époque, ce n'était pas des gens venus du Darfour qui la traversaient, mais c'était bien les Italiens qui venaient pour travailler ici et pour essayer de trouver des ressources plus grandes que chez eux. Donc ça, déjà, ça m'intéresse, mais en plus, moi, je suis tombée complètement par hasard sur ce documentaire, c'est une amie qui l'a partagé sur les réseaux sociaux, là. Voilà, il y a des fois des bonnes surprises. Une amie chercheuse, d'ailleurs, sur la question migratoire. Et c'est un petit bijou. Et pourquoi je l'ai choisi, c'était aussi pour être le documentaire de fin du festival. Parce que j'aime bien, à la fin du festival, mettre quelque chose qui met un peu du baume au cœur après tout ce week-end. Et qui amène... je le trouve très poétique, en fait, c'est notamment au niveau de la bande originale.
Ouais. Très beau. On en écoute un extrait tout de suite.
Nous étions 4 frères et 2 sœurs. Mon père était cibré. Il allait en saison dans les Langues. Nous qui restions à la maison, nous gardions les moutons des gens de Roasque. Nous les menions paître. J'avais 11 ans. Au pâturage, je portais toujours un morceau de pain sec dans ma poche. Et quand j'ai trouvé une source, je les mettais à ramollir dans l'eau. Mon père descendait dans la plaine couper les blés. Je l'accompagnais. Je portais l'eau et le vinaigre à l'équipe. J'ai gagné 10 sous par jour. À l'automne, nous partions à pied avec nos outils de travail. Alba, Neive, Mango, Feisoglio, Monbarcaro, Castelnuovo. Nous parcourions la basse et la haute langue, tout à pied. Quand nous n'allions pas dans les langues, nous battions la plaine d'un ferme à l'autre, toujours à Feibutale, avec 4 tranches de polenta frite en poche. La vita assassina. Quelquefois, dans les fenis abandonnés, nous devions accrocher des récipients pour recueillir les gouttes d'eau. Ce n'est pas pour rien que je me suis ruiné la santé. C'était comme la guerre. Notre vie était comme une guerre qui ne finissait pas. Comme une guerre qui ne finiva mai. Giacomo Andreis, né à Marmora, en 1891, classe 1891, paysan, contadino.
Ma mère est morte quand j'avais 7 ans. Elle a laissé 5 enfants. C'est à cette époque que je commence à faire danser les marmottes. À l'automne, mon père allait creuser sous terre. Il tirait les marmottes dehors, 3 ou 4, et nous les mettions dans une caisse. C'était moi, la maîtresse des marmottes. Je les dressais avec une baguette. Je les faisais danser et siffler. Je les baptisais aussi. Chaque marmotte avait son nom. Je leur donnais à manger des pommes, des choux, de l'herbe et du pain. J'allais vite pour dresser les marmottes. Les marmottes dansaient à coups de bastonnet. Si je les touchais plus fort, elles sifflaient. Elles ne voulaient pas que je les frappe. Quand l'automne était avancé, les marmottes étaient déjà endoctrinées. Alors j'allais à la Sado, en France, demander la charité. Mon père avait 40 ans. Il mettait sur son dos les chariots et la caisse des marmottes. Nous n'emportions pas une seule marmotte, mais plusieurs, de peur qu'il en meure. Trois jours à pied, en passant par l'école de Pourriac. Nous descendions à Saint-Martin-du-Var et ensuite jusqu'à Nice. Arrivé à Nice ou à Cannes, mon père cherchait un travail. Et nous, les enfants, nous allions demander l'aumône. Moi et un de mes frères, le plus jeune, nous travaillions avec la marmotte. La marmotte dansait pendant que je chantais une chanson en français. Une chanson que j'avais faite.
Comme une guerre qui ne finissait jamais, un documentaire de Raphaël Bottiveau qui nous propose une espèce de jour de la marmotte de la migration entre oui. politique et témoignage historique. Un documentaire ouais. réalisé en 2021. C'est très beau.
C'est vraiment beau. Ouais.
Déjà, en 3 minutes, on sent qu'on se pose quelque oui. part dans ces sons d'archives et ces récits anciens. Eh bien, sans transition. Aucune.
Sans transition, allez.
Bien entendu. On parle toujours des murs ne servent à rien. 19, 20 et 21 septembre avec Chloé Peterman. On parle maintenant des expositions,
allez.
Si ça te va.
Oui.
Quand même, 4 expositions qui sont présentées cette année. On a parlé de celle d'Olivier Jobard. On l'a évoqué en tout début d'entretien. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire de
peut-être,
ces expos,
peut-être dire que l'expo d'Olivier, elle commence samedi. Là. C'est-à-dire, elle commence une semaine 13. En amont du festival. Elle commence samedi 13. Le vernissage a lieu à 18h. Il fera une visite guidée à 18h30 et c'est vraiment un moment que je recommande parce qu'il ne sera pas là durant le festival. Donc si on veut rencontrer Olivier Jobard, c'est samedi. C'est un monsieur avec qui on travaille depuis très longtemps. Il faisait partie des artistes exposés dans l'édition 0 des Murs ne servent à rien, c'est-à-dire la première expo intitulée Les Murs ne servent à rien à Genève en Suisse, où on avait déjà présenté son travail photo sur une famille syrienne qui s'exilait en Suède. Famille sur laquelle il a fait un film ensuite qui s'appelait Tu seras syrienne ma fille, tu seras suédoise ma fille. Lapsus. Et qu'on a passé au mur. On a également passé son film Cœur de pierre, qui a marqué beaucoup de festivaliers du festival, qui était un film sur Gorban, un jeune exilé afghan qu'il a rencontré mineur quand il vivait à la rue dans Paris. Et bien, l'expo que vous verrez à l'usine pendant 2 semaines, là, elle parle toujours de ce jeune. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail photo très, très, très long cours autour du parcours d'exil et surtout d'installation et de vie en France de Gorban. Il a obtenu la nationalité française, il est retourné en France voir sa famille et surtout avec l'aide de Olivier et Claire et de plein d'autres gens, il a réussi à faire venir ses frères et sœurs au moment où on a vu ces images terribles des avions qui décollaient de Kaboul lorsque les talibans ont repris le pouvoir. Ses frères et sœurs ont pu monter dans ces avions, ils sont venus en France et maintenant ils ont le statut de réfugiés ici. Ils font leur parcours et ce sont tout plein de choses qu'on voit dans le travail photo de Olivier et aussi comment... En fait, cette expo et ce travail, c'est vraiment l'histoire d'un accueil et de l'interculturalité, mais à l'échelle d'une famille, parce qu'en fait, les enfants de Olivier qui sont plus petits, sont devenus très proches aussi de ces jeunes Afghans. Enfin, c'est juste trop beau, quoi. Il faut venir l'entendre parler de son travail, c'est passionnant.
De la photo documentaire.
Oui, tout à fait.
Donc, ça commence le 13 septembre, comme tu le disais, mais c'est jusqu'au dimanche 28 aussi.
Donc, ça nous laisse 2 semaines d'expo.
Exactement.
C'est fermé juste le lundi.
Et donc, c'est ouvert de 14h à 18h. Et pendant le festival, ce sera ouvert de 10h à 18h, vendredi,
tout
samedi et dimanche.
Oui.
Est-ce qu'on parle de d'où viennent nos grands-mères,
oui,
l'association Mimesis,
oui.
Un travail plus local qui allie recherche artistique et récit de vie.
Oui, complètement. Mimesis, c'est effectivement un de nos partenaires. On travaille avec Mimesis dans nos liens avec la recherche sur les questions migratoires. Et elles vont présenter une partie d'une expo, d'ailleurs, qu'elles ont présenté à Montélimar là, pendant tout l'été à la médiathèque. D'où viennent nos grands-mères ? C'est tout un travail de recherche-action qu'elles mènent sur le territoire entre Dieulfi et Montélimar sur comment les femmes font passer leurs histoires, leur patrimoine culturel à leurs filles, à leurs petites filles. Et c'est toutes sortes de femmes différentes qu'elles ont rencontrées sur le territoire et qui racontent leur histoire. Et tout ça, c'est vraiment dans l'idée de les petites histoires s'incluent dans la grande et comment les deux se nourrissent.
C'est exactement ça, les mémoires des migrations des femmes dans la vallée du Jabron.
Oui,
c'était
exactement.
Ça le mot qui nous manquait.
Ouais, 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 tout à fait.
Pareil, 10h à 18h, la halle en dessous, la halle, salle Jeanne Barnier.
Ça sera salle Jeanne Barnier dans l'escalier.
Il y aura aussi une expo au Lavoir.
Oui, l'expo des photos de Michele Catani. Et puis l'expo Sillage, ça je peux en parler 2 minutes,
bien sûr.
Vraiment une expo qui nous est prêtée par le Musée de l'Histoire de l'Immigration. Donc dire quand même que, bon, il y a encore des choses qui marchent. On va dire ça, c'est absolument génial de pouvoir se faire prêter comme ça une expo d'une telle qualité. Et c'est une exposition sur la présence au long cours et ancienne des Roms, des Manouches, des Saintés, des Gitans, des Yéniches, des gens du voyage en France. Expo à la fois photo et histoire, c'est vraiment une exposition historique. Et elle aura lieu dans une salle qu'on n'a pas utilisée jusqu'à maintenant, mais qui est la salle qui est au-dessus du Labor, au-dessus du cinéma de Dieulfi.
Mmh.
Donc on a la chance d'utiliser cette grande belle salle.
Donc grand merci pour
les
aides.
Au Palais de la Porte Dorée, au Musée de l'Immigration, oui.
Ah oui. Qu'est-ce qu'on va dire encore avant de se quitter ? Un programme spécifique pour les enfants quand même, qui est très élaboré cette année, qui est proposé au deuxième étage de la halle, en partenariat avec une autre association locale que vous connaissez bien maintenant.
Microfolie et Stimuli. Eh bien oui, on a la chance pour la deuxième année de monter ce programme avec eux. Ils sont trop chouettes, il faut le dire, hein, l'équipe de Microfolie, un spécial dédicace. Ils sont vraiment adorables et ils sont enthousiastes. Et donc, on propose une programmation qui va de lecture de livres jeunesse à partir de 4 ans, donc avec les tout-petits, jusqu'à des ateliers à partir de jeux sur les questions migratoires, sur la double culture, sur l'exil, mais aussi des projections de films et même un petit podcast pour les enfants, parce que je trouvais quand même chouette d'amener aussi des contenus sans écran et avec un très très joli petit deux petits podcasts très très jolis qu'on a trouvé qui sont produits je crois par Arte Radio si je dis pas de bêtises. Donc voilà, soyez les bienvenus. Les contenus pour enfants, c'est samedi et dimanche de 9h30 jusqu'en fin de journée. Il y a différents sujets qui s'enchaînent, donc il y a de quoi réjouir vos petits et vos ados.
L'événement est subventionné.
Oui.
Est-ce que vous souffrez également en tant qu'association de la dégringolade des aides publiques ?
Alors, disons, avec le festival,
comment vous êtes soutenu vous ?
Avec le festival, on a été relativement protégé cette année. On a vraiment la grande chance de toujours avoir la DRAC Ethnologie qui est très très qui nous soutient beaucoup depuis plusieurs années. Donc ça, c'est une
fidélité. Donc la Direction régionale des affaires culturelles pour celles et ceux qui se demandent.
Qui se demandent qui est la DRAC. La commune de Dieulefi, la communauté de communes sont toujours aussi toujours derrière nous. Le musée de l'immigration, c'est une forme de subvention, mais en nature, évidemment. Et puis, on a le CCFD Terres Solidaires qui nous aide pour la deuxième fois parce que ils ont un gros axe migration.
Alors, le CCFD, c'est le comité catholique pour la faim et le développement. Non, contre la faim et pour le développement.
Contre la faim et pour le développement, exactement. C'est très bien de le déployer. Ils nous soutiennent. Et c'est tout cet ensemble de gens qui nous soutiennent qui fait que voilà, chaque année, on peut repartir avec cette prog.
Un écosystème qui permet aussi, rappelons-le peut-être, que les entrées soient des entrées libres.
Oui.
On peut venir sans réservation et sans argent, n'est-ce pas ?
Oui. Tout à fait. Il y a une participation libre qui est proposée à l'entrée. Il y a une boîte, on met ce qu'on veut, si on est content, si on n'est pas content. Ou si on est content mais qu'on n'a pas de sous, c'est pas grave, on met rien. Nous, on tient à cette participation libre, à cette entrée libre. Mais c'est effectivement, tu as raison de le dire, les subs qui le permettent et aussi tout ce qu'on fait dans le festival pour gagner un peu de sous, à la fois cette boîte, mais vendre des gâteaux, vendre des boissons au bar.
Il y a plusieurs façons quand même d'aider l'asso, c'est ça que je voulais te demander, afin qu'elle puisse continuer le festival, mais il y a aussi les activités d'accueil et d'accompagnement au long de l'année. Quels moyens on a, nous, simples citoyens, citoyennes, pour vous aider ?
Alors là, il y en a plusieurs. Ouais, tout à fait, surtout que comme nos activités se déploient, là, il y a pas mal de choses à faire. Donc déjà, sur le festival, il y aura une table sur l'association Passerelle, mais aussi sur la COP Lucette, la coopérative immobilière qu'on a montée pour acheter la maison Lucette, puisque donc ça y est, on a acheté et qu'on lance les travaux et que donc on est toujours en recherche de gens qui veulent prendre des parts sociales pour rentrer dans cette aventure collective de retaper une maison pour accueillir à terme entre 10 et 15 personnes en situation d'exil à Dieulefi. Donc on peut nous aider par ce moyen-là. On peut d'ores et déjà dans la semaine, dans les jours qui suivent, aller sur coplucette.fr, c'est l'endroit où on prend les parts. On peut aussi faire un don simplement à l'association Passerelle, basiquement, sur le site de l'asso.
Et on peut faire don de ses talents de cuisinier.
Et on peut faire don de ses talents de cuisinier, et ça, vraiment, je lance un appel. Faites des gâteaux pour le festival, nous, on les vend à prix modique sur le festival. Tout le monde se régale en mangeant des choses faites maison et ça cofinance l'ensemble du budget.
Et il suffit de venir avec votre gâteau un matin.
Vous amenez votre gâteau vendredi matin ou samedi matin ou dimanche matin. Vous le déposez aux gentils personnages.
Avec un petit mot.
Avec un petit mot si possible pour dire s'il y a des noix dedans. Voilà. C'est bien de nous dire ce qu'il y a dedans, comme ça on évite les allergies. On n'a pas besoin d'appeler les urgences.
Alors, tu en parlais, Chloé, les activités de l'association Passerelle que tu diriges se sont démultipliées cette année, avec notamment la création de la COP Lucette. Et pourtant, le festival continue.
Oui.
Ça fait certainement beaucoup, beaucoup, même si votre équipe s'est élargie, bien entendu. En quoi c'est important de garder des temps d'échange comme le festival ou de continuer à informer le public ? Bon, ça semble être un peu une tarte à la crème, ma dernière question. Mais en gros, comment on alimente la motivation pour boucler avec le début de notre entretien des gens
C'est justement,
sur ces thématiques.
Justement, oui, c'est super important de... En fait, les murs ne servent à rien. C'est un moment d'information, clairement, mais c'est aussi un moment où maintenant, les gens se retrouvent. retrouve plein de gens des collectifs de la Drôme, mais de beaucoup plus loin. Il y a nos amis de Briançon qui viennent aussi, qui sont des gens qu'on a rencontrés au refuge il y a très longtemps. Il y a des gens de Lyon, il y a des fois des gens de Paris qui descendent. Enfin, c'est impressionnant, des gens de Marseille. Donc, c'est devenu un peu un moment où on se retrouve, on se serre les coudes aussi. Et on a des contenus qui nous nourrissent, clairement. Et c'est important de nourrir cette motivation. Et puis, bon, rencontrer une personne comme des personnes comme Amaury et Michele qui, eux, ont passé du temps les plages d'où partent les personnes exilées que nous, après, on retrouve là. Moi, je trouve que c'est vraiment une chance de pouvoir créer ces liens. Et surtout, ça amène une vraie subtilité, en fait, dans nos propos. Et c'est ce qu'on essaye de faire.
On va finir cette entrevue avec la diffusion d'un morceau, parce qu'on n'a pas parlé de la soirée festive
samedi. Mais oui, on n'a pas parlé de la soirée
festive. Et ce sera un trio franco-colombien, Mama Cholita, qui jouera pour tous Soirée on danse, un bal.
Ah bah carrément, là c'est soirée festive samedi soir aussi, parce que pour lutter, il faut de la joie. Donc ça va être chouette, ça va être beau, et je pense qu'il fera beau. Donc ce sera dehors, devant la halle, et on pourra aussi manger sur place. Donc venez danser avec
Mama
nous samedi
soir. Mama Cholita, la France et la Colombie réunies pour danser. Le terme Cholita, je ne sais pas si tu le sais, ça fait référence aux femmes autochtones de Bolivie.
D'accord.
Qui embrassent fièrement leur héritage culturel. Ça vient du diminutif espagnol Cholo, historiquement utilisé pour décrire les individus d'origine mixte autochtone et espagnole. Voilà, pour boucler à nouveau dans la thématique.
Dans la diversité.
La diversité. Un grand merci, Chloé.
Merci à toi.
D'être venue nous parler de cette 9e édition du festival Les Murs ne servent à rien. Donc, je rappelle avec grand plaisir les dates. Ça commence le vendredi 19 septembre à 20h. C'est l'ouverture du festival à la Halle de Dieufi. Vous pouvez rester jusqu'au dimanche en fin de journée. Bien sûr, on a vu exposition qui commence dès samedi 13 à l'usine à Pouet-Laval. Oui. Exposition des photographies d'Olivier Jobard pendant 15 jours. Vous pourrez vous régaler, enfin, si j'ose dire, de cette programmation extrêmement riche et passionnante, mais parfois un peu ardue, il faut le dire. Mais c'est bien d'entendre des choses vraies. Retrouvez le programme aussi sur la page de cette interview, mais aussi sur le site de l'association Passerelle, qui est différent de celui que tu as donné tout à l'heure. C'est Passerelle avec un S,
passerelleasso.fr.
La semaine prochaine, rendez-vous à 9h30 pour parler cette fois des Journées européennes du patrimoine, mais toujours en très charmante compagnie. À très vite à l'écoute de Radio La ou au pays de Dieulfi-Bourdeaux. Portez-vous bien. On se quitte avec Mama Cholita, la Choca S. On dansera tous ensemble le 20 septembre, on l'espère. Au revoir.
Au revoir. Maria Veni. Vamos a empezar la choca, que el sábalo viene como a la loca. Anda a correr, decile a Cloro, miro, que el sábalo viene de viro, viro. Y la catanga, tráela con bejuco, para llenarla de sábalo y guacuco. Hacele bulla, hacele que él se cansa, y ya cansado, tíralo entre la champa. Y hacele bulla, y hacele que él se cansa, y ya cansado, tíralo entre la champa. Y la choca es para coger guacuco y sábalo, la choca es para coger guacuco y sábalo, la choca es para coger guacuco y sábalo, la choca es para coger guacuco y sábalo. Que venga con José, a ver si así lo podemos coger. Move la piedra, móvela bien, José, porque allá abajo ahí vive el guachupé. Move la piedra y móvela bien, José, porque allá abajo ahí vive el guachupé. Tan buen verano, el río está muy seco, guacuco y sábalo seguro que cogemos. Tan buen verano, el río está muy seco, guacuco y sábalo seguro que cogemos. La choca es para coger guacuco y sábalo, 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 la choca es
para coger guacuco y sábalo.
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 La choca es la choca es la choca es la choca es la choca es, la choca es, la choca es.